Vous écoutez « On lit pour vous ».
Les francophones de l'Atlantique, une voix égale, mais pas toujours entendue, un texte de Marine Arnoux, paru le 16 août dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. En Atlantique, les francophones n'ont pas le même poids démographique selon la province où ils se trouvent. Pourtant, les organismes chargés de les représenter l'assurent. Chaque voix compte et chaque voix est égale au sein des instances nationales et régionales. Quand il s'agit de s'affirmer et de défendre leurs droits, les francophones de l'île du Prince-Édouard arrivent-ils à exister face au Nouveau-Brunswick, officiellement bilingue? Émile Galland l'affirme fermement. Les organismes représentant les communautés francophones et acadiennes du Canada Atlantique portent d'une seule et même voix leur revendication à Ottawa. On se bat ensemble pour prendre notre place, être vu et entendu. Chacun peut amener ses points et passer ses messages au fédéral, insiste le président de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, SAF-Île. La SAF-Île, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, FANE, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, FFTL, et la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, SANB, accordent leur violon au sein de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, FCFA, qui regroupe 21 organisations au total. Tous ces organismes n'ont cependant pas la même envergure. Selon les données du dernier recensement, près de 29,5% de la population a le français pour langue maternelle au Nouveau-Brunswick. Ce pourcentage tombe à 3,0% à l'île du Prince-Édouard, 2,9% en Nouvelle-Écosse et à 0,4% à Terre-Neuve. Chaque organisation porte-parole est membre à part entière avec le même droit de vote, le même poids politique, et ce, quel que soit le poids démographique de la population qu'elle représente, assure Liane Roy, la présidente de la FCFA. Les mêmes enjeux à des échelles différentes. Compte tenu de ce déséquilibre démographique, les communautés francophones hors du Nouveau-Brunswick peuvent bénéficier de moins d'attention, estime quant à elle Michel Landry, professeur de sociologie à l'Université de Moncton et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir. Dit autrement, même si chaque voix compte, celle du Nouveau-Brunswick porte plus. Que ce soit à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve, on vit les mêmes choses à des échelles de taille différentes, réagit Émile Galland. On doit tous travailler fort pour réussir à vivre en français dans un océan anglophone. Le président de la SAF-Île cite pêle-mêle les dossiers de l'immigration, de la santé ou encore de l'éducation en français commun aux populations francophones de l'Atlantique. On est tous pris dans les mêmes combats, à savoir le respect des droits linguistiques et la pérennité de la présence des francophones en milieu minoritaire, abonde Liane Roy. Le mode de fonctionnement pratique de la FCFA tend à responsabiliser chaque province à part égale. Les 21 adhérents se rencontrent 4 fois par an à Ottawa. Ils discutent notamment de l'état d'avancement de leurs dossiers provinciaux à l'occasion d'une table stratégique annuelle. Chaque automne, ils se rendent sur la colline parlementaire à Ottawa. Pendant une journée, ils défendent leurs intérêts auprès des députés et des sénateurs. Ça leur donne la chance de contribuer et d'influencer nos priorités, souligne Liane Roy. Mais en tant qu'organisme national, nous parlons pour l'ensemble de nos membres, à part si l'un d'eux vit une situation de crise. la FCFA s'autorise alors à aborder des enjeux locaux et seulement à ce moment-là. La SNA, plus sur le volet culturel. Les associations francophones de l'Atlantique se retrouvent également au sein d'une autre table de discussion régionale, la Société nationale de l'Acadie, SNA. On a les outils pour mieux se connaître et avoir conscience des réalités des uns des autres. On a plus d'occasions de parler ensemble que d'autres régions du pays. Salut, Émile Galland. Il y a moins de joueurs autour de la table, mais la SNA a perdu son rôle politique depuis les années 1960, nuance Michel Landry. Elle fait surtout la promotion culturelle de l'Acadie, à l'international notamment. Le conseil d'administration de la SNA réunit la FANE, la FFTL, la SAF-IL et la SANB, ainsi que les quatre associations jeunesse provinciales. La gouvernance et les orientations stratégiques de la fédération sont entre les mains de ses 8 membres, détenteurs du droit de vote. Comme Liane Roy à la FCFA, Martin Théberge, président de la SNA, insiste sur sa volonté d'assurer une représentation équitable des quatre provinces. Chaque membre du conseil d'administration a le même poids. Si on y allait avec un ratio au prorata de la population, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est la fameuse devise de l'Acadie. L'union fait la force. Et c'est le principe qui a présidé à la fondation de la SNA en 1881, ajoute-t-il. De fortes disparités provinciales. Cette représentativité qui se veut exemplaire n'enlève rien à la difficulté de défendre les intérêts des Acadiens auprès des gouvernements provinciaux. On est assujetti à leur volonté politique. Nos priorités ne sont pas forcément les leurs et on peut avoir du mal à obtenir des financements pour des événements culturels et des tournées d'artistes, partage Martin Théberge. C'est un travail de sensibilisation de longue haleine. La SNA et la FCFA doivent par ailleurs composer avec de fortes disparités provinciales. À un bout de l'échiquier politique, Terre-Neuve ne dispose d'aucune loi sur les services en français, tandis qu'à l'opposé, le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne officiellement bilingue dotée d'une loi sur les langues officielles. On invite nos membres à faire du lobbying auprès de leurs gouvernements respectifs, car ce sont eux qui connaissent le mieux leur réalité, précise Martin Théberge. On ne veut pas marcher sur leur plate-bande. On préfère travailler en collaboration et partager de l'information. Avec cette même ambition d'améliorer la représentation des communautés francophones en situation minoritaire, la SNA et la FCFA sont en train de négocier un accord pour clarifier leurs liens et leurs mandats respectifs. L'objectif? Éviter toute compétition qui pourrait nuire aux intérêts de leurs membres. Faire connaître l'Acadie ici et ailleurs. L'Acadie n'est pas connue à l'international. Vu de l'étranger, le français au Canada, c'est le Québec, point à la ligne, tranche Michel Landry, professeur de sociologie à l'Université de Moncton. Même au Canada, la population ne sait pas encore qu'il y a des francophones hors Québec, poursuit Liane Roy. La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, FCFA, est néanmoins convaincue que la modernisation de la loi sur les langues officielles ainsi que le recensement de 2021 ont changé la donne. Plus de gens ont entendu parler de nous. Tout le monde s'est inquiété de la diminution du poids démographique des francophones, estime-t-elle. Mais la FCFA et la Société nationale de l'Acadie, SNA, n'ont pas attendu ces dernières années pour mettre au point des programmes de sensibilisation. Chaque été, la SNA organise des fêtes de l'Acadie partout au pays, de Yellowknife à Ottawa, en passant par le Québec. Je rencontre régulièrement le consul de France à Moncton pour le sensibiliser aux réalités des petites communautés à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, ajoute Martin Théberge, président de la SNA. De son côté, le président de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, Émile Galland, est persuadé que les congrès mondiaux acadiens contribuent à mettre l'Acadie sur la carte du monde. Ça nous fait connaître à l'extérieur. On rappelle haut et fort qu'on existe. Aux yeux de Michel Landry, ce type d'événement concourt aussi à renforcer les liens culturels entre les Acadiens des provinces de l'Atlantique. Les élites acadiennes se connaissent, mais la population en général, pas énormément, considère la sociologue. La FANE, la FFTL et la SANB n'ont pas donné suite à nos demandes d'entrevue. C'était Les francophones de l'Atlantique, une voix égale mais pas toujours entendue, un texte de Marine Arnoux, paru le 16 août 2023 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Que disent les chiffres? Un texte de Laila Malouf, paru le 11 octobre 2025 dans la presse. Un peu partout en Occident, des experts ont tiré la sonnette d'alarme ces dernières années. La lecture est en péril, en particulier auprès des jeunes, mais également chez leurs aînés. Les écrans, les réseaux sociaux grugent de plus en plus de notre temps précieux et minent notre capacité à nous concentrer sur un texte en profondeur. Vos témoignages le confirment. Mais la situation est-elle aussi dramatique chez nous qu'on le croit? Nous avons voulu aller voir les chiffres de plus près. En 2024, l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, OCCQ, et l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, ont réalisé une enquête auprès de plus de 16 000 Québécois de 15 ans et plus pour déterminer combien de temps ils consacrent entre autres à la lecture, aux jeux vidéo, à la télévision, au cinéma ou encore au spectacle. Contrairement à d'autres études comme celle que le quotidien français Le Figaro a dévoilée le printemps dernier, réalisée par Ipsos pour le Centre national du livre en France, cette enquête ne s'est pas penchée sur le temps de lecture quotidien. L'objectif était plutôt de connaître à quelle fréquence les Québécois s'adonnent à la lecture. Cela fait en sorte que les résultats semblent somme toute moins alarmants, explique Pascal Genet, chargé de projet qui a travaillé sur l'enquête. Quand on parle de lecture plus spécifiquement, dit-il, plus de 8 personnes sur 10 au Québec ont lu des livres papier ou numériques dans leur temps libre au cours des 12 mois précédents. Ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est de voir la fréquence de lecture, ajoute M. Genet. Près d'un quart de la population lit tous les jours ou presque, et ce nombre grimpe à 30% pour les 60 à 74 ans. Bien que les 15 à 29 ans soient les moins nombreux à lire quotidiennement parmi tous les groupes d'âge, ils arrivent en tête de ceux qui lisent au moins une fois par semaine ou au moins une fois par mois. Et ils sont les moins nombreux à avoir répondu qu'ils ne lisaient jamais. Pascal Genet note que 86% des 15 à 29 ans ont lu des livres au cours des 12 mois précédant l'enquête, ce qui les place au-dessus de l'ensemble des autres groupes d'âge. Qui sont les lecteurs? Source, enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement. Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à lire des livres, 89%, que les hommes, 75%. les personnes titulaires d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires sont plus nombreuses à lire que celles qui n'ont aucun diplôme ou détiennent seulement un diplôme d'études secondaires. Les personnes ayant le français uniquement comme langue le plus souvent parlée à la maison lisent en plus faible proportion que les autres, 79 % contre 88 % à 90 %. Des ventes de livres en hausse. Selon l'enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement, parmi les trois lieux culturels que fréquentent les lecteurs pour se procurer des livres, les librairies arrivent en tête, suivies des bibliothèques, avec les salons du livre en troisième. Des données de l'ISQ et de l'OCCQ montrent d'ailleurs qu'après avoir graduellement baissé pour toucher un creux peu avant 2020, le montant des ventes totales de livres neufs a connu une hausse importante depuis la pandémie, atteignant en 2024 son plus haut niveau depuis 2013. Ces chiffres sont loin de surprendre la directrice générale de l'Association des libraires du Québec, Gabrielle Simard. Le retour de mon conseil d'administration par rapport à la réalité dans les librairies est que ça se passe bien. Les gens, les familles, continuent à venir acheter des livres. Ils en achètent moins parce que le prix du livre augmente, mais ils en achètent encore, dit-elle. Les gens ont retrouvé le goût de lire pendant la pandémie, selon Mme Simard. Ça demeure quand même un loisir qui est accessible aussi. Acheter un livre, c'est moins cher que d'aller voir un spectacle. Les données comptabilisées par la Société de gestion de la Banque de titres de langue française, BTLF, le montrent elles aussi. Depuis le début de l'année 2025, les ventes au détail dans le réseau des librairies indépendantes de la province sont en hausse de 1,4 %. La réalité de chaque librairie est différente, ajoute Gabrielle Simard, mais la librairie La Liberté à Québec, par exemple, connaît depuis le début de l'été une explosion des visites en succursale. En région, ça se passe bien. Les chiffres du 12 août l'ont démontré aussi. Les gens ont envie d'aller en librairie et de lire. La littérature jeunesse ressort nettement du lot, mais la littérature de genre se vend bien en particulier. L'horreur, les romans policiers et surtout la romance, qui est très populaire, note-t-elle. Les très petits lisent, les adultes lisent, mais on cherche souvent comment faire lire les jeunes. Et la romance est une belle porte d'entrée pour rattacher les adolescents et les adolescentes à la lecture. Que lisent les lecteurs québécois? Source, enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement. Un peu plus du tiers des lecteurs, 36 %, ont jeté leur dévolu sur des romans et des nouvelles. Les livres de développement personnel arrivent en deuxième, 17 %, suivis par les livres pratiques, 16 %. Les plus grands lecteurs de biographies sont les 75 ans et plus, 19 % contre 9 % pour la moyenne de tous les groupes d'âge. Les 30 à 44 ans sont deux fois plus nombreux que les autres à lire des livres jeunesse, 20 %, ce qui correspond à l'âge moyen de la parentalité au Québec. Les raisons de lire ou pas. Source, enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement. Près de 50 % des 30 à 44 ans ont dit lire des livres à leurs enfants. 60 % des répondants qui n'ont pas lu de livres dans les 12 mois précédant l'enquête ont évoqué leur prix élevé. 5 % de ceux-ci ont dit avoir perdu l'habitude de lire. Le manque d'intérêt pour la lecture arrive en tête des raisons évoquées pour ne pas lire, 71 %, devant le manque de temps, 44 %. C'était « Que disent les chiffres ?», un texte de Laila Malouf, paru le 11 octobre 2025 dans la presse.
Le deuil qui nous apprend à vivre. Un texte d'Hélène David, paru le 24 septembre 2025 dans La Presse. En 2024, j'ai écrit sur deux personnes intensément engagées pour le bien de leur société, Guy Rocher, sociologue qui fêtait alors son 100e anniversaire de naissance, et Valérie Fortier, présidente des Agricultrices du Québec. Le 3 septembre 2025, à moins de 3 heures d'intervalle, j'ai appris leurs morts respectives. Guy Rocher venait d'avoir 101 ans. Valérie Fortier, quant à elle, a disparu dans un tragique accident d'avion. Âgée de 42 ans, elle avait la responsabilité de ses 3 enfants depuis la mort de son mari en 2013. Elle exploitait une ferme laitière avec son père, en plus d'être, depuis 2 ans, présidente des Agricultrices du Québec. Le destin nous prend de court. Apprendre, la même journée, presque dans la même heure, la mort de 2 personnes qu'on a connues, nous rappelle que la vie est fragile et imprévisible. L'une est morte à un âge qu'on peut qualifier de respectable, l'autre a été victime d'un cruel destin. On le sait tous, la vie ne peut tenir qu'à un fil. Mais quand cette réalité nous rattrape, on est quand même secoué. Valérie Fortier était toujours prête à s'engager dans des causes, comme celle de la santé mentale, du travail invisible des agricultrices, des besoins de haltes garderies à horaires atypiques, ou encore les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion dans le milieu agricole. Elle avait endossé tous ses rôles avec fougue et passion. Elle voulait changer le visage de l'agriculture au féminin au Québec. On se demande, sans trouver de réponse, pourquoi le sort s'est acharné sur ses 3 enfants qui perdent, à 12 ans d'intervalle, leur père puis leur mère, morts tous deux dans de tragiques circonstances. C'est tellement douloureux et radical. La vie est faite de questions, beaucoup plus que de réponses. Finalement, on ne choisit que peu de choses. Ni où l'on est, ni la famille qui nous accueille, ni les drames et pertes de nos vies. Notre enfance, notre milieu familial et nos expériences dessinent les contours de ce que nous deviendrons. Des plus optimistes, fonceurs et déterminés, aux plus pessimistes, vulnérables et inquiets. Notre bagage génétique nous révélera aussi quelques-unes de nos forces et de nos fragilités. Notre environnement définira en grande partie la pauvreté ou la richesse de notre parcours. Le climat politique influencera les contours de notre vie sociale, financière ou familiale. Personne n'a décidé de naître à Gaza, au Soudan, en Ukraine, ou, au contraire, dans l'environnement feutré de pays riches et pacifiques. Beaucoup de choses nous échappent. Mais on peut choisir de poursuivre notre chemin de vivant avec les moyens qui nous sont accessibles, financiers, intellectuels, humains et sociaux. En vieillissant, nous comprenons de mieux en mieux l'importance de la solidarité, de l'entraide, de la chaleur humaine. Parce que la vie est trop souvent difficile, exigeante. Il faut puiser dans nos réserves d'optimisme et de sérénité. Guy Rocher disait que le plus important pour vivre et bien vieillir était de garder la curiosité. Valérie Fortier aurait probablement dit la même chose, elle qui n'aura pas eu le temps de réaliser tous ses projets. Le destin inclut une composante aléatoire qui, par définition, échappe à notre contrôle. Nous voulons tout prévoir, que la science nous accompagne dans toutes nos inquiétudes, nous donne des réponses et des solutions à toutes nos questions et problèmes, qu'ils soient environnementaux, médicaux, technologiques, sociaux ou géopolitiques. Mais il faut plutôt trouver nos propres réponses avec les ingrédients qui nous ont façonnés. Guy Rocher et Valérie Fortier avaient trouvé dans leur engagement des outils pour améliorer la société à laquelle ils appartenaient. Ils ont tout donné, le premier jusqu'à 101 ans et la seconde jusqu'à 42 ans. Ces deux deuils simultanés m'ont rappelé l'humilité et la modestie de notre condition de mortel. Pour surmonter la perte et la tristesse, il faut peut-être décider d'en faire quelque chose de plus grand que nous, nous mettre au service de ceux et celles qui restent, que nous pouvons aider. C'est une des seules avenues possibles pour permettre aux humains de survivre et éventuellement de vivre. Les conditions politiques et sociales actuelles de polarisation devraient raviver une flamme de concorde plutôt que de discorde, de rapprochement et d'empathie envers les plus vulnérables. On devrait vouloir être utile et aidant plutôt que clivant et provoquant. La vie continue avec ou sans nous, et chaque perte, dans le meilleur des cas, ajoute une couche d'humanité essentielle au vivre ensemble. Vivre un deuil, c'est accepter tout ce que l'on veut habituellement éviter de voir et de comprendre. On sait que la vie est fragile, que tout peut s'arrêter brutalement. Je reprends la citation de l'auteur Cédric Sapin-Defour, dont la conjointe a été gravement blessée dans un accident de parapente. Ce sont des moments où la vie peut basculer du tout au tout. A-t-on encore envie d'aimer la vie? C'est ce que je souhaite profondément aux endeuillés qui ont peine à trouver un sens au-delà de la perte. C'était « Le deuil qui nous apprend à vivre ». Un texte d'Hélène David, paru le 24 septembre 2025 dans La Presse.